APH déroule le tapis rouge à la rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Stan Cuesta, bonjour.
Bonjour.
Vous avez accepté notre invitation à passer quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Soyez-en remerciés. Vous êtes actuellement à Pézenas pour participer à la 62e rencontre cinéma de la ville. Vous avez été invité et vous aurez l'occasion de présenter le film John Baez, I Am Noise au public. Vous êtes auteur, journaliste, critique musical. Vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes encore, chanteur et musicien.
Non, c'est juste, ça reste chez moi, ça. Si je le suis, c'est pour mes proches.
D'accord. Et vous êtes également directeur, parce que vous l'avez créé, d'une collection qui a pour titre Les Indociles.
Exact.
Je suppose que le titre n'a pas été choisi au hasard.
Non, et John Baez était une des premières figures à laquelle nous voulions nous attaquer dans cette collection. Donc ça a presque été créé pour elle, je veux dire.
Les objectifs de cette collection, c'est donc de raconter de façon littéraire et hors des sentiers battus quelques grandes figures du rock.
Oui, du rock ou de la musique populaire au sens large, parce qu'on ne peut pas dire que John Baez fasse vraiment du rock, même si elle appartient à ce monde-là. Mais oui, on voulait s'attaquer d'abord à des gens ayant une forte personnalité, une carrière importante et qui sont, bah oui, souvent des indociles, c'est-à-dire des gens qui ont été un peu en dehors des sentiers battus. Il y a John Baez, mais il y a aussi Leonard Cohen et des Français comme Jacques Higelin ou Catherine Ringer.
Quelquefois, vous avez un peu la dent dure par rapport à la chanson française. Il me semble avoir trouvé que vous aviez écrit que la chanson française n'était pas un genre musical, qu'elle a toujours mangé à tous les râteliers.
Ah oui, c'était peut-être une façon de m'exprimer un peu abrupte, mais oui, il n'y a pas de style musical dans la chanson française. C'est vrai que si vous prenez Georges Brassens ou Alain Souchon, c'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, Aurel San, je sais pas. Mais disons que oui, j'ai l'impression qu'en France, les textes sont beaucoup plus importants que la musique depuis toujours. Et que donc, on prend des textes et on les pose sur une musique du moment, en fait. C'est ça que je voulais dire.
Stan Cuesta, vous avez également écrit, dans un texte que j'ai trouvé, « Ceux qui chantent en français n'ont plus rien à dire. Ceux qui ont quelque chose à dire ne chantent plus. Ils parlent, ils assènent, ils crient. Cela dit sûrement quelque chose de notre époque. »
Ça, je me demande si c'était pas un article sur la chanson française dans Art Press. Vous avez trouvé ça,
ouais.
Non ? Ouais, c'est dans Art Press, je me souviens de ça. Je parlais de Léo Ferré beaucoup, en fait, et des enfants de Léo Ferré. Oui, ça résonne par rapport au rap et à toutes les musiques d'aujourd'hui qui ont beaucoup envahi la chanson française. Et je parlais de quelques héritiers de Léo Ferré que je trouvais intéressants, comme Mendelssohn, effectivement, ou je ne sais plus qui.
Père de B,
c'est vrai, mais qui j'ai pas vu beaucoup exploser comme je le souhaitais d'ailleurs il y a quelques années. Quelqu'un que je suivais beaucoup au début, oui. Oui, c'est vrai, qui avait repris, parce qu'il y avait un album de reprise de Léo Ferré qui était sorti, où elle avait fait une très belle version d'une chanson de Ferré. Je pense que Ferré était un grand précurseur, notamment du rap et de plein de choses comme ça, effectivement, avec ses grandes... Il s'est mis à parler plus qu'à chanter. Gainsbourg aussi, cela dit, hein, aussi. Oui, je pense que la chanson chantée, en France en tout cas, remonte plus à des choses comme Charles Trenet, avec une espèce de légèreté qui avait été continuée par des gens comme Higelin, par exemple, qui se référait beaucoup à Charles Trenet, qui était... considéré comme son maître.
Il y avait une filiation.
Oui, oui, bien sûr, absolument. D'ailleurs, il a fait un spectacle et un album entier de chants de traînée. Et par rapport à cette chanson qui était un peu joyeuse et légère, et, pas toujours, hein, mais disons que voilà, il y a certaines choses, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en rencontrant des artistes actuels, certaines choses qui font état d'une société qui ne va pas très bien, d'un mécontentement général et tout, qui ont du mal à se dire en chantant. avec, qui ont du mal à se dire sur des jolies mélodies. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont choisi cette façon de plutôt parler, ce qu'on a appelé le parler-chanter à une époque. Ça a commencé comme ça un peu, oui, effectivement.
À travers ce que j'ai pu trouver comme information, je n'ai pas trouvé de référence à Jean Ferrat, par exemple.
Alors, c'est amusant, parce que vous avez vu quelques textes que j'ai écrits, mais Jean Ferrat, c'est, j'ai grandi avec Jean Ferrat. C'est-à-dire que j'ai, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais j'ai écrit un recueil de nouvelles, là, quelque chose de plus personnel récemment. Oui. Et ça commence par une sorte d'éloge de Jean Ferrat, parce qu'il a bercé mon enfance. Parce qu'en fait, mes parents étaient plus ou moins communistes, on va dire, et tous les communistes écoutaient Jean Ferrat. Mais moi, je ne me rendais pas compte du tout de la portée politique. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui me plaît le plus chez lui. Mais c'est sa voix incroyable. J'ai grandi avec la voix de Jean Ferrat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il n'est pas défendable, il a dit des choses, il a fait des choses... » Bon, d'abord, il n'a jamais été complètement communiste, enfin, il n'a jamais pris sa carte. Il a été très critique, assez vite sur le parti. Mais surtout... c'était un chanteur magnifique, quoi. Moi, c'est comme si ça faisait partie de mon ADN, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas trop cette expression, mais quand j'entends sa voix, je suis... voilà, je retombe en enfance, quoi. C'est un truc... je ne peux pas le contrôler, voilà. C'est le premier chanteur que j'ai aimé, que j'ai entendu toute mon enfance. Ça passait partout dans la maison. Nuit et brouillard, C'est beau la vie, La Commune, voilà. Toutes ces chansons des années 60.
Lorsqu'il a mis en chanson des textes d'Aragon aussi, mm-hmm. Je trouve qu'il avait quand même une certaine sensibilité qui lui permettait de trouver des mélodies qui collaient bien, finalement, oui. Ces textes-là.
C'est surtout ses chansons, sa voix, je vous dis, et même ses mélodies que j'apprécie. Après, il a des grands textes, il a effectivement chanté Aragon... il y a tout un album qui est formidable, qui date de 71, je crois, ouais. Mais oui, bien sûr. Et puis, il était proche d'Aragon, et Aragon avait accepté, adoubé ses textes, d'une certaine façon, on va dire. Ouais. Voilà, ce qui est rare, quand même, quoi. Voilà, aujourd'hui, quand un chanteur s'attaque à Aragon, ou à Baudelaire, ou à des gens comme ça, on ne peut pas savoir ce que le poète en pense, quoi. Voilà.
Sur votre route, vous avez peut-être croisé un chanteur que moi j'ai toujours apprécié, c'était Henri Tachon.
Je ne connais pas bien, j'avouerai. Oui, j'ai écouté un petit peu, mais il y a longtemps, par des amis dans les années 70. Il a eu une grande période à cette époque-là, je pense, qu'il était assez populaire sans l'être, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne passait pas beaucoup à la radio.
Il passait pas à la radio, mais moi j'ai assisté à certains de ses concerts. Il oui. y avait du monde. Là,
oui, même, oui,
parce
oui.
Il y avait un petit côté anard chimiste dans ses textes et tout ça qui finalement touchait une partie de,
oui, oui, c'est vrai.
De la population.
Mais moi, si je le connais, c'est à travers, par exemple, je pense, les émissions de Jean-Louis Foulquier sur France Inter, qui était un grand défenseur de la chanson française et qui passait ce genre de chanteur. Ouais.
Tout à l'heure, vous faisiez allusion à un ouvrage de nouvelles que vous aviez écrit. Cet ouvrage avait pour titre « La musique a caché ma fille ».
Oui, voilà, ça vient de sortir. Oui. Bon, titre un peu ironique.
C'est un peu paradoxal. Oui. C'est quand on voit que toute votre activité professionnelle a tourné autour de la musique.
Voilà.
La chanson, que ce soit anglo-saxonne ou que ce soit française. Et alors, en quoi cette fameuse musique a gâché votre vie ?
Il faudrait lire le livre pour le savoir, mais disons en gros...
Donnez-nous envie de le lire.
Oui, bien sûr. En gros, j'ai été passionné par la musique très jeune, enfant, adolescent. J'ai commencé à faire des groupes, voilà. Et je me dirigeais vers une carrière de musicien, en fait, quand j'avais 16-17 ans, voilà. D'ailleurs, tous les amis beaucoup d'amis à moi qui ont commencé la musique en même temps que moi à ce moment-là sont devenus musiciens professionnels. Et puis moi, il s'est trouvé que j'ai eu une sorte de malédiction par rapport aux études, c'est-à-dire que j'étais bon en maths, assez bon élève sans beaucoup travailler. Et j'avais des parents qui m'ont beaucoup poussé à continuer mes études, tu as un potentiel, il faut absolument que tu ne gâches pas ce potentiel, etc. Ce qui fait que j'ai fait quelque chose que j'ai détesté de bout en bout, c'est-à-dire des études scientifiques, les classes préparatoires, Mathsup, Mathspé et une école d'ingénieurs. Parce que j'avais pas vraiment le courage de m'opposer à mes parents, parce que j'avais des facilités dans ce domaine-là, etc. Et ça m'a empêcher de faire de la musique. Voilà. Bon, ça, c'était le premier pas. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie, pour le coup, je gâchais un peu ma vie dans ce sens-là. Et j'ai repris la musique, mais sur le tard. C'est-à-dire, j'ai recommencé et je suis devenu musicien professionnel, chanteur, j'ai fait des disques, etc. Mais plutôt à la fin de la vingtaine, presque à 30 ans. Et là, j'ai complètement, évidemment, arrêté ma carrière scientifique d'ingénieur, où je gagnais très bien ma vie et où j'étais appelé à devenir un haut cadre, on appelait ça les jeunes cadres dynamiques à l'époque, voilà, en travaillant notamment à Radio France, que je raconte dans le bouquin. Et donc, j'ai complètement abandonné cette voie-là, puisqu'une fois que vous avez arrêté de travailler dans ce domaine-là, quelques années plus tard, c'est foutu. Vous êtes dépassé par l'évolution technologique, vous n'êtes plus crédible auprès des employeurs, etc.
Les petits jeunes loups arrivent.
Voilà. Je suis devenu artiste à temps plein. Et j'ai connu beaucoup de périodes de vache maigre, effectivement. Voilà, je vivais de ma passion, je faisais de la musique, je chantais, je composais des chansons. Mais je gagnais beaucoup moins d'argent que je n'aurais pu en gagner si j'avais continué ma carrière d'ingénieur. Et donc, je dis parfois, il m'arrive de le regretter. C'est-à-dire que c'est en ça que je dis, entre guillemets, à gâcher ma vie. C'est-à-dire que la musique a été une telle passion qu'elle m'a détourné des voies raisonnables.
Ce dernier livre, donc, qui est paru il n'y a pas longtemps, je crois,
en
2023,
novembre, oui, à la fin de l'année.
Fait partie du répertoire de la collection de biographies musicales, Les Indociles, qu'on évoquait tout à l'heure. Quels sont les autres...
Excusez-moi. Non, ce petit recueil de nouvelles est à part de la collection. Ça n'a rien à voir avec la collection. C'est chez un petit éditeur de nouvelles qui s'attache à publier que des nouvelles, qui s'appelle Antidata. Voilà. Par contre, la collection Les Indociles, qui est chez Webeck Gallimard, elle n'est pas du tout autobiographique, c'est des écrits biographiques, donc sur des chanteurs, comme on le disait tout à l'heure, comme John Baez ou Leonard Cohen, pour laquelle j'étais donc, que j'ai créé, que je dirige, et où je faisais appel pour écrire ces biographies à des gens dont ce n'est pas le métier. Voilà, c'était ça un peu une des originalités de la collection, c'était faire appel à des artistes eux-mêmes, des photographes, des écrivains, des poètes, et qui donneraient un regard assez intime et personnel sur les artistes sur lesquels ils écrivaient. C'est-à-dire quitter un peu le domaine de la biographie totalement factuelle, qui, je trouve, aujourd'hui perd du terrain par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, sur Wikipédia, etc., et réinjecter dans les biographies d'artistes quelque chose qui soit plus du domaine du ressenti, de l'opinion, des sentiments. Et c'est comme ça qu'on a réalisé ces quelques livres. Donc, par exemple, Leonard Cohen a été écrit par Pascal Boisiz, qui est lui-même chanteur et musicien au sein des groupes Mendelssohn et Bruinoir. Il y a un autre livre sur Jim Morrison et les Doors qui a été écrit par Patrick Coutin, qui est le chanteur que tout le monde connaît pour son tube qui était J'aime regarder les filles, voilà, qui était un gros fan des Doors et qui a toujours repris leurs morceaux sur scène, qui a lui-même vécu en Californie, donc qui mélange son expérience personnelle avec la biographie de Jim Morrison et ça donne des choses originales. C'est ça que j'avais envie de faire dans cette collection.
Pourquoi vous êtes tourné vers la musique, la chanson anglo-saxonne? Il y avait quelque chose qui explique cette...
Oui, alors c'était peut-être un peu... Moi, j'ai grandi dans les années 70, qui étaient quand même les années post-68, où les jeunes étaient quand même assez rebelles et assez... en malaise par rapport à la génération précédente. Et donc, quand je dis que j'ai grandi dans l'amour de Jean Ferrat, c'est vrai quand j'étais enfant. Mais en fait, très vite, la chanson française m'est apparue comme la musique de mes parents. C'est-à-dire Brassens, Brel, Ferré, ils aimaient vraiment toutes ces grandes choses. Et moi, jeune, dans les années 70, il fallait s'opposer à ses parents. Et pour s'opposer à ses parents, qu'est-ce qu'eux, ils détestaient? C'était le rock'n'roll, c'était les Stones, c'était pire, David Bowie et toutes les choses un peu... Dès qu'ils étaient maquillés et tout, ça les rendait dingues. Ils trouvaient ça complètement décadent et tout. Et donc, je me suis jeté là-dedans pour avoir mon univers à moi. Comme aujourd'hui, les jeunes dont les parents écoutent du rock se rebellent en écoutant du rap. C'est-à-dire qu'ils disent que... Et moi, mes enfants écoutent du rap et je n'y comprends rien et j'aime pas ça. Et je leur dis, ah, mais donc je passe pour un vieux con, évidemment. Et eux, pour eux, le rock, mais c'est aussi ringard que pour moi l'était effectivement Georges Brassens quand j'étais gamin. Évidemment, tout ça a passé avec le temps et en devenant adulte, j'ai réintégré toutes mes influences de chansons françaises. C'est pour ça que j'ai aussi écrit des livres sur la chanson française. Et maintenant, je suis autant amoureux de Léo Ferré que des Beatles ou que de Nirvana, si vous voulez. Voilà, c'est un grand mélange. Mais effectivement, dans ma jeunesse et quand j'ai commencé à faire de la musique, puis ensuite à écrire sur la musique, c'est le rock qui est devenu mon domaine un peu privilégié.
Catherine Ringer semble avoir recueilli votre assentiment sur ce, que, ce qu'elle fait.
C'est un bon exemple dans la mesure où elle, c'est quelqu'un d'assez, de totalement libre et qui, quand je parle avec elle de ses influences musicales, c'est tout et n'importe quoi. C'est assez génial. Et ça se sent dans ce qu'on fait l'Erita Mitsuko, c'est-à-dire que c'est un espèce d'immense melting pot où ses influences, à elle, sont aussi bien, je disais justement, David Bowie ou des trucs de rock très anglo-saxon. Et puis... aussi bien Dalida ou Kalsoum, voilà, c'est parce qu'elle a grandi en écoutant la radio et en imitant les chanteurs qu'elle entendait à la radio. C'est-à-dire que aussi bien c'était effectivement Dalida qui est très importante pour elle, ou je sais pas Henri Salvador ou des choses comme ça, et puis plus tard le rock and roll. Donc elle a grandi avec ça sans œillères, justement, sans a priori. Et ensuite, quand elle a fait elle-même des chansons, elle a même chanté de la musique contemporaine avec Yanis Xenakis, donc c'est vraiment une palette très large. Et quand elle a elle-même composé ses chansons et les a interprétées, tout ça est ressorti de façon assez, assez mélangée et très originale.
Vous avez donc toujours apprécié ces groupes anglo-saxons, vous venez de vous expliquer pourquoi, mais il y a aussi un certain nombre de chanteurs qui ont retenu votre attention, en particulier Bob Dylan.
Ah oui, Dylan, c'est marrant d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé à écouter Dylan donc dans les années 70, qui était une époque où il était un peu oublié, mais enfin en retrait volontaire de la scène, disons. Et donc j'écoutais ses disques des années 60, qui avaient déjà une dizaine d'années, mais il était immense, c'est-à-dire plus il se retirait de la scène et plus il était dans l'ombre et plus il prenait une dimension mythologique, quoi. On a du mal à se rendre compte ce que c'était. Alors évidemment en France c'était un peu ambigu parce que la plupart des gens ne comprenaient pas ce qu'il chantait. Moi-même quand j'ai aimé Bob Dylan, je ne savais pas pourquoi je l'aimais en fait, parce qu'il chantait bizarrement, il jouait bizarrement de la guitare, de l'harmonica de façon assez étonnante. Et je ne comprenais quasiment rien de ce qu'il chantait. Et pourtant, je l'ai adoré. Donc évidemment, après, j'ai appris à parler anglais, j'ai compris plus ses textes, donc je ne l'en ai aimé que d'autant plus. Mais il y avait une fascination, et puis qui était aussi due à la transmission de l'amour de la musique, se faisait de façon beaucoup plus parcimonieuse à l'époque qu'elle se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de la musique partout comme on l'a aujourd'hui. Moi, je lisais Rock et Folk, en fait, d'où mon ambition ultime était d'écrire dans Rock et Folk. C'est ce qui est marrant, c'est ce qui finit par arriver.
Ça finit par arriver.
Oui, voilà. Et une de mes ambitions, c'était pas la seule, mais enfin, voilà. Et en fait, on lisait religieusement Rock et Folk tous les mois en regardant les chroniques d'albums qu'on ne pouvait jamais écouter, quasiment. C'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement aller à la FNAC, il y avait ce qu'on appelait des cabines d'écoute, où on mettait un casque sur la tête et on écoutait quelques morceaux. Mais sinon, la radio ne passait jamais Bob Dylan, la télé, n'en parlons pas, la télé, il y avait effectivement des variétés qu'on détestait à l'époque. Et donc, c'était une rareté totale. Et donc, en fait, on était persuadé qu'on aimait ça avant même de l'avoir écouté. C'était un truc assez, assez bizarre. Ça avait un côté presque idéologique, quoi. L'écoute finale, où on finissait par acheter un album qui coûtait cher par rapport à l'argent de poche qu'on pouvait avoir, on se retrouvait à être obligé d'aimer ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était déjà persuadé qu'on l'aimait. Et Dylan, oui, c'est vrai, a été... Et donc, à l'époque, quand on lisait Rock et Folk et toutes ces revues, c'était le dieu vivant, quoi. Vraiment, voilà. Donc forcément... Mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y avait aussi les Beatles, les Stones, Neil Young, enfin voilà, beaucoup d'artistes comme ça. Mais c'est vrai que Dylan avait une aura particulière. Et ce qui est formidable, c'est que donc 50 ans plus tard, aujourd'hui même, il a toujours cette aura, quoi. Donc là, le film qui vient de sortir sur sa vie...
J'allais vous interroger là-dessus. Vous avez été invité à la projection,
oui, j'étais
à l'avant-première du film.
À l'avant-première du film, et j'ai trouvé au Grand Rex, qui sont des conditions fabuleuses à Paris, parce que c'est vraiment une très belle salle. Ouais. Et moi, j'ai été très, très séduit par le film, alors que, bon, j'avais toutes les caractéristiques pour ne pas l'aimer. C'est-à-dire que je connais bien la vie de Dylan, je connais bien son œuvre, je pourrais être dans le camp de ceux qui disent « Ah oui, mais c'est totalement... Il y a plein d'erreurs factuelles et tout, mais les erreurs factuelles du film sont amusantes dans la mesure où on sait que Dylan est derrière le film en tant que producteur, via son manager, et a accepté le scénario, et a même proposé et demandé à ce qu'on ajoute des erreurs factuelles. Voilà, parce qu'il avait déjà fait le coup avec Martin Scorsese, qui avait fait un documentaire sur une de ses tournées des années 70, la Rolling Thunder Review, qui est un très beau film aussi. Et il avait demandé à Martin Scorsese de mettre des faux témoignages dans le film. Voilà, donc Dylan, c'est quelqu'un d'assez assez original pour ça. Non, le film est très beau, c'est un très beau film. Timothée Chalamet, que je connaissais à peine, est formidable. Voilà, c'est...
Alors, il semble qu'il ait fourni un travail de préparation assez extraordinaire.
Oui, mais... d'après ce que j'ai lu, il a travaillé pendant plusieurs années, apprendre la guitare, apprendre à chanter, se documenter évidemment sur la vie de Dylan, qu'il n'a pas rencontré d'ailleurs, mais qui, voilà, il s'est énormément documenté. Le réalisateur, par contre, a rencontré Dylan. Ouais. Et alors, comme je suis un peu un spécialiste de Joan Baez, puisque j'ai écrit un livre sur elle...
J'allais faire la transition.
J'ai trouvé que la fille qui jouait Joan Baez était très bien. Et d'ailleurs, Joan Baez, a posteriori, l'a adoubée elle-même en disant qu'elle avait fait un très bon travail.
Vous avez écrit un livre sur Dylan. Dylan Cover, mm-hmm. c'est ça là.
C'est une biographie, une discographie complète.
Et vous venez à la rencontre cinéma de Pézenas pour présenter le film Joan Baez, I Am Noise. Mm-hmm. Ce film-là, vous l'avez... Je pense que si vous le présentez, c'est que quand même, il ne vous a pas laissé insensible.
Ah oui, bien sûr. Oui, je l'ai vu même avant qu'il sorte. J'étais en contact avec le distributeur parce que mon livre était sorti peu de temps avant. Donc j'avais envie que nous unissions nos efforts. Je l'avais d'ailleurs déjà présenté en avant-première au Diagonal à Montpellier, au cinéma. Voilà. C'est un film passionnant parce que il est très différent des documentaires musicaux habituels qu'on peut voir. Ce n'est pas du tout un documentaire biographique exhaustif, qui est d'ailleurs il y a déjà un film qui existe sur Joan Baez disponible en DVD qui s'appelle How Sweet the Sound, je crois. Qui est un documentaire plus classique qui raconte son parcours avec des images d'archives où on la voit avec Dylan, avec Martin Luther King, etc. Et là, par contre, c'est un film vraiment dans lequel elle s'est investie, donc I Am Noise, puisqu'elle a, pour la première fois de sa vie, ouvert ses archives. Donc on la voit d'ailleurs physiquement rentrer dans une pièce aux archives où elle ouvre des tiroirs, où il y a des tonnes de cassettes, de bandes, d'écrits, etc. Elle a fait confiance aux deux réalisatrices qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle a rencontrées. Et en fait, elle s'est servie de ce documentaire pour elle-même révéler des choses dont elle n'avait jamais parlé avant. Voilà. Donc c'était vraiment... c'est pas son projet au départ, mais elle a totalement adoubé ce projet et elle s'en est même servie pour faire des révélations.
C'est ce qui explique ce qui était écrit dans Télérama, le cheminement psychique d'une star, le cheminement difficile d'une star.
Oui, je n'ai pas envie de révéler ce qu'elle révèle elle-même dans le film, parce qu'il faut garder un petit peu de mystère, mais disons que c'est un film très troublant, très fort, et pas du tout montrant une Joan Baez qui n'est pas du tout l'image cliché qu'on peut avoir d'elle, c'est-à-dire l'espèce de passionnariat du folk très engagé. Bon, ça c'est vrai, hein, qu'elle a été très engagée politiquement dans les luttes pacifiques, etc. Mais là, c'est plus sur l'intime. On est vraiment sur... D'ailleurs, elle passe des films super 8 d'elle enfant avec ses parents, des choses très émouvantes, parce que... Voilà. Et elle se libère d'un certain poids de secrets familiaux, comme beaucoup de gens en ont, mais elle, c'est assez, assez impressionnant. Et elle le fait aujourd'hui, alors qu'elle a 84 ans, donc elle devait avoir 81 ans quand le film a été tourné. Et elle dit qu'elle le fait aujourd'hui, seulement aujourd'hui, parce que bah, dramatiquement, tout le monde est mort autour d'elle. C'est-à-dire ses parents sont morts, bien sûr, puisqu'ils étaient très âgés, mais même ses deux sœurs, dont elle était très proche, dont l'une était chanteuse aussi, Mimi Farina, ces deux sœurs sont mortes. Donc elle est le dernier survivant de sa famille, en fait, et elle peut enfin voilà, parler des choses qu'elle avait sur le cœur et qui l'ont effectivement rendue malade toute sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignorait totalement, elle n'en a jamais parlé.
Bon, on a vu que vous aviez déjà écrit un certain nombre de livres et tout ça. Est-ce qu'il y en a certains qui sont en préparation et sur quels artistes,
hein? Alors, oui, dans cette fameuse collection Cover, où il y a des discographies complètes d'artistes, hein, des discographies dans lesquelles je donne des éléments factuels, c'est-à-dire que c'est une double page par album, et je donne des éléments factuels, mais aussi un avis très personnel. C'est-à-dire que, voilà. Et dans cette collection-là, j'ai écrit deux livres. Qui sont un sur les Beatles, donc toute leur discographie plus la discographie des quatre membres en solo après, jusqu'à aujourd'hui, et un autre sur Neil Young, pareil. Et en fait, ces deux livres ont été écrits il y a quelques années, sont épuisés et sont un peu dépassés dans la mesure où ces artistes ont continué à produire. Alors les Beatles, ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a toujours des albums qui sortent de fond de tiroir. Paul McCartney a lui-même sorti des nouveaux albums, Ringo Starr aussi. Et donc, je vais sortir dans peu de temps, en mai, une nouvelle édition augmentée, corrigée, etc., de ce livre sur les Beatles. Et à la rentrée en septembre, la même chose avec le livre sur Neil Young, sachant que Neil Young aujourd'hui a 80 ans, et en 5 ans qui se sont écoulés depuis la sortie de ce livre, il a sorti quelque chose comme 25 albums. C'est-à-dire des nouveautés, des archives, des concerts enregistrés. C'est quelqu'un qui produit énormément. Et donc, voilà, en 5 ans, mon livre est devenu complètement obsolète. Donc, un nouveau livre sur Neil Young à la rentrée en septembre.
Vous allez, pendant la rencontre, présenter le film de John Baez, I Am Noise, comme on vient de le dire. Et cette projection est suivie d'une rencontre autour de vos livres, en particulier celui sur John Baez, mais aussi sur celui qu'on évoquait tout à l'heure, La musique a gâché ma vie. Vous aimez ce type de rencontre?
Oui, c'est intéressant. Bah, vous savez, déjà, c'est bien. Les moyens de communication aujourd'hui passent beaucoup par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est vrai que je me sers de Facebook, d'Instagram pour parler de mes livres, pour parler des sorties quand un livre sort et tout. Et les relais traditionnels de la presse, la radio, la télé sont difficiles à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui sortent tous les mois, c'est fascinant. Et des livres sur la musique particulièrement. Quand j'ai commencé à en écrire, c'était au début du 21e siècle, j'étais un peu pas seul. Mais disons, c'était original, les livres sur la musique. Il n'y en avait pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés dans l'aventure, alors que c'est une niche qui n'est pas forcément très, très rentable, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de livres qui n'ont pas beaucoup de lectorat. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'au niveau promotionnel, c'est très difficile d'avoir une visibilité dans les médias. Et puis, sur les tables des libraires, un livre reste un mois à tout casser. Et très vite, il y en a un autre qui arrive et votre livre disparaît. Donc, ce qui se passe, c'est ça, je le remarque, parce que ça fait longtemps que je publie des livres et assez souvent, c'est que vous avez un gros boom médiatique. Enfin, restons raisonnables, mais disons que tout le monde parle de votre livre pendant 15 jours, 3 semaines, et au bout d'un mois, c'est terminé. Vous n'êtes plus sur les tables des libraires, là, la presse ne parle plus de vous. Et sur Internet, bah, vous ne voyez pas les gens, enfin, vous avez très peu de retours. Donc, une des bonnes façons de continuer à faire vivre un livre, tout simplement, ce sont effectivement les salons et les rencontres où vous allez directement à la rencontre des gens, discuter avec eux, leur dédicacer des livres s'ils en ont envie. Et c'est toujours très intéressant parce que, bah, pour eux, d'ailleurs, la plupart du temps, les gens disent « Ah, je ne savais pas que ce livre existait », ce qui laisse pantois, parce qu'en fait, on se dit « Bah oui, il y a tellement de choses qui paraissent que les gens sont débordés. Moi, j'ai plein de livres qui sont sortis il y a 10 ans, les gens ne savent même pas qu'ils sont sortis. » Voilà. Si vous êtes, évidemment, si vous êtes un passionné de musique, vous lisez toutes les revues musicales, etc., mais imaginez quand je sors un livre sur John Baez, J'ai plein de gens qui viennent me voir qui ont 60, 70, voire plus, qui me disent « Ah, j'ai bien connu John Baez dans les années 70, je l'ai vu en concert au Larzac. » Enfin, j'ai des gens qui me racontent des histoires assez incroyables. D'ailleurs, c'est super, il faudrait les compiler. Mais en fait, ces gens-là ne sont pas du tout dans le circuit des fans de musique. Ce sont juste des gens qui ont eu cette passion quand ils étaient jeunes, mais qui ont un peu... Et donc, ils sont absolument pas du tout au courant de ce genre de choses, comme je n'ai pas souvent la... Voilà, c'est très dur de passer sur les grands médias, disons que si vous passez pas sur TF1 ou sur Antenne 2, donc plutôt dans des médias spécialisés. Et donc, il y a toute une part du public qui n'est pas touchée par ça. Par contre, vous arrivez dans une ville, comme Pézenas, par exemple, mais j'en ai fait partout ailleurs, et vous faites une rencontre dans une librairie ou à la médiathèque, eh bien, vous touchez des gens qui ne savaient même pas que votre livre existait et qui sont très intéressés. Donc, c'est une façon de, évidemment, de rencontrer son lectorat, de l'informer et de continuer à faire vivre les livres. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça.
Stan Kester, merci beaucoup d'avoir accepté donc, de passer quelques instants, comme je le disais, en ouverture avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays des Ronds. On aura plaisir à vous retrouver au mois de mai, si j'ai bien compris, quand vous allez sortir le prochain livre.
C'est sur les Beatles, oui. Septembre, sur Neil Young, oui.
Voilà, on aura plaisir à vous retrouver sur les trois fréquences de Radio Pays des Ronds et RPH Sud. Merci.
Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu.